Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris. RFI Midi, dernière partie avec à la une de cette demi-heure américaine, la guerre commerciale de Donald Trump contre le monde entier et en premier lieu contre le Canada. On y revient dans notre revue de presse dans quelques minutes. Avant d'écouter un grand nom de la photographie, Sébastien Salgado, il expose 50 œuvres en ce moment en France et il nous parlera de son travail. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, vous nous parlerez de cette réaction pour le moins mitigée des associations en Martinique au lendemain de la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire du chlordécone.
11 personnes seulement indemnisées pour préjudice moral d'anxiété, c'est déjà une victoire, mais évidemment ce n'est pas beaucoup et pour les associations c'est même beaucoup trop peu.
À tout à l'heure. Avant tout cela, le journal. L'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Y aura-t-il un cessez-le-feu après plus de 3 ans de guerre en Ukraine? La réponse de la Russie se fait attendre.
Oui, sur le terrain, les armes continuent de parler. Varsovie indique que les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine via la Pologne ont repris après la réunion d'hier entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite. À Riyad, la délégation ukrainienne a approuvé la position américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours assorti de négociations immédiates avec la Russie. Reste à savoir quelle sera la position de Moscou. Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour.
Les contacts s'accélèrent avec les Américains qui s'emploient à obtenir une réponse.
Oui, la balle est désormais dans le camp des Russes, dit le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a conduit la délégation américaine pour parler en Arabie Saoudite et qui prévient « Si les Russes disent non, cela nous en dira long ». Il s'agit maintenant d'expliquer aux Russes ce qui est sur la table et de les convaincre. Ce sera en particulier la tâche du conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz, qui devrait rencontrer son homologue russe dans les prochains jours. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, devrait lui se rendre cette semaine à Moscou et rencontrer Vladimir Poutine. Pas de confirmation officielle côté russe. La porte-parole de la diplomatie, Maria Zakharova, se borne à déclarer via RIA Novosti que la Russie n'exclut pas des contacts avec des représentants américains au cours des premiers jours. Des prochains jours, le Kremlin n'a pas commenté la proposition de cesser le feu. La partie russe, dit Dmitri Peskov, se familiarise avec le texte de la déclaration commune de Jeddah. Le porte-parole de Vladimir Poutine déclare par ailleurs qu'il n'exclut pas la possibilité d'un appel entre les présidents russes et américains, un appel qui pourrait être organisé très rapidement si nécessaire.
Anastasia Becchio, merci. En France, faut-il ou non permettre la saisie des avoirs russes gelés? Et si oui, pour en faire quoi? C'est l'une des questions auxquelles répondront les députés ce mercredi lors de l'examen d'une proposition de résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine. Ce mercredi 12 mars marque une nouvelle étape dans la guerre commerciale que Donald Trump a engagée avec le reste du monde. Toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis se voient dorénavant appliquer une surtaxe de 25%. Mauvaise nouvelle de plus pour l'acier européen déjà en pleine crise.
Et pour ce qui est du grand voisin canadien, les revirements sont incessants.
Oui, Washington a annoncé hier un doublement des taxes pour les faire grimper à 50% avant de revenir sur sa décision. Les décisions imprévisibles des États-Unis compliquent l'adoption d'une stratégie fixe pour le Canada et ses provinces, tandis que le gouvernement fédéral campe sur une ligne dure. L'Ontario, elle, a adouci sa réponse. Nafi Alibert.
L'Ontario s'est imposé en médiateur diplomatique hier pour désamorcer la tension dans le conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, quelques heures après que Donald Trump ait jeté de l'huile sur le feu. Jusque-là inflexible, Doug Ford, le premier ministre ontarien, a finalement accepté de suspendre temporairement sa taxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis. Il dit avoir pris cette décision après avoir eu une conversation productive avec le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Doug Ford le rencontrera d'ailleurs à Washington jeudi pour poursuivre les négociations. Il sera accompagné du ministre canadien des Finances, Dominique Leblanc. Mais l'Ontario et le gouvernement fédéral ne parlent pas d'une seule et même voix dans cette guerre commerciale. Ottawa maintient la ligne dure et ne recule pas dans sa riposte. C'est que les décisions imprévisibles des États-Unis compliquent l'adoption d'une stratégie fixe pour le Canada et ses provinces. Dernier exemple en date, hier, Donald Trump a menacé de doubler les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien, les faisant passer de 25 à 50% pour finalement revenir sur cette décision quelques heures plus tard. Dans ce contexte, François Legault, le Premier ministre québécois, réclame quant à lui une rencontre entre les dirigeants des différentes provinces et le futur Premier ministre du Canada, Mark Carney, dès qu'il sera assermenté. Nafia Libère, Montréal, RFI.
Des vents mauvais soufflent sur la science américaine.
Oui, après les thèmes de recherche censurés, après les licenciements et les coupes dans les financements, on apprend que la NASA perd sa directrice de la science, Catherine Calvin, et son équipe ont un mois pour faire leur carton. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
De lourdes menaces pèsent sur l'activité scientifique de l'Agence spatiale américaine à l'occasion de l'examen de son prochain budget.
Et oui, exit le bureau de la scientifique en chef, Catherine Calvin, poussée vers la sortie, exit également le bureau de la technologie et de la stratégie, exit enfin l'équipe qui s'occupait des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est le ménage dans l'organigramme de la NASA, dans la droite ligne des attaques menées contre la recherche fédérale par l'administration Trump. L'exemple de Catherine Calvin est à ce titre emblématique. Elle était, en plus de son poste de responsable scientifique, la principale conseillère climat de l'Agence spatiale américaine. Elle devait co-présider un groupe de travail du GIEC pour l'écriture du prochain rapport, participation annulée, au même titre que l'engagement américain dans ce travail. Ces coupes franches dans le personnel de la NASA vont de pair avec ce qui semble être une réorganisation des priorités de l'agence. Son budget va être examiné dans les prochaines semaines au Congrès. Des documents de travail circulent déjà et on y évoque une diminution de moitié de l'enveloppe dédiée à la science et zéro crédit alloué à l'étude et au suivi du climat. Si cela venait à se concrétiser, Gilles, ce serait une catastrophe tant le rôle de la NASA dans la surveillance de la Terre est primordial.
Simon Rosé en direct dans ce journal, merci à vous.
En France, haro sur le ZAN.
Oui, ZAN comme zéro artificialisation nette. Après son offensive contre les garde-fous dans l'agriculture, la majorité centriste Les Républicains au Sénat s'attaque à une autre politique environnementale du pays, contre l'artificialisation des sols. Donc, l'objectif a été fixé par l'État à l'horizon 2050 afin de freiner l'urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est l'une des causes de la disparition de la biodiversité. Une proposition de loi arrive au Sénat, elle risque de vider de sa substance ce ZAN, Lucille Gimbert.
Une forêt qui se transforme en zone industrielle bétonnée. Voilà ce que veut éviter le zéro artificialisation nette, le ZAN. La loi climat et résilience de 2021 prévoit ainsi que les villes et villages français aient réduit d'ici 2031 de 50% leur consommation de nouvelles terres naturelles, agricoles et forestières, par exemple pour construire des logements ou des routes. C'est l'objectif intermédiaire avant la neutralité en 2050, c'est-à-dire l'obligation de ne plus détruire d'espaces naturels, sauf à compenser en restaurant d'autres. Devenu épouvantail d'une partie des élus locaux, le dispositif a été assoupli en 2023. Cette fois-ci, la proposition de loi sénatoriale pourrait en effacer les principaux apports, regrette l'écologue Brian Padilla, spécialiste de l'artificialisation des sols.
Elle supprime l'objectif intermédiaire de 2031, alors qu'il y a déjà plein de collectivités qui travaillent à les intégrer dans leurs documents d'urbanisme. Et elle prévoit, par exemple, que les grands projets d'aménagement ne soient plus du tout comptés dans l'artificialisation, donc que l'État se soustrait à l'effort de sobriété.
Le gouvernement de François Bayrou pourrait opter pour un compromis, décaler l'échéance intermédiaire à 2034. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie demande, lui, de pouvoir garder 10 000 hectares pour des projets industriels.
Lucille Gimbert du service environnement. Bref, avant de conclure, l'avion transportant l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, vers la CPI doit se poser dans l'après-midi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Rodrigo Duterte a été arrêté hier à son arrivée à l'aéroport de Manille à la demande de la CPI qui enquête sur la guerre contre la drogue livrée sous sa présidence. Enfin, football au programme ce mercredi, la suite et la fin des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Tombeur des Reds de Liverpool hier soir à Anfield Road, le Paris Saint-Germain a envoyé un message à l'Europe en se positionnant désormais comme l'un des favoris de cette Ligue des Champions. En lice aussi ce soir, un autre club français engagé dans cette Ligue, c'est Lille opposé au Borussia Dortmund. Il est pile 14h09 ici à Paris, il est temps de retrouver Anne Cantner pour la suite et la fin d'RFI Midi.
Merci Gilles Moreau. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Aux États-Unis, pour commencer, à la une de votre revue de presse, Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'elle vous plaît, cette guerre commerciale ?
C'est l'édito très épicé du Wall Street Journal qui n'en peut plus des tergiversations de Donald Trump. Il suffit d'ailleurs d'aller lire la conclusion de ce pamphlet pour s'en faire une idée. On a dit, nous rappelle le Wall Street Journal, dès le début que cette guerre avec le Canada était la plus bête de l'histoire. Et encore, on était gentil. Ça, c'est dans le quotidien que l'élite de la finance lit tous les matins au petit déjeuner. Un électorat qui a sans aucun doute voté Trump à la présidentielle, mais qui ne comprend plus rien à sa boussole économique et qui envoie gifle sur gifle. Sa géniale petite offensive contre le Canada sur les droits de douane va causer du tort aux entreprises et aux consommateurs des deux côtés de la frontière. Le ministre du Commerce, Howard Lutnick, prétend que tout ça va rendre les produits américains moins chers. Pardon, s'énerve encore le Wall Street Journal. Les entreprises qui utilisent des composants étrangers vont devoir augmenter leurs prix ou baisser leurs marges. Est-ce que M. Lutnick, le ministre du Commerce, a bien compris comment ça marche, le commerce? Le problème avec les guerres commerciales, finit le Wall Street Journal, c'est que quand on les déclenche, elles peuvent très vite dégénérer et partir en vrille, surtout quand le Canada prépare sa campagne électorale ou quand M. Trump se comporte comme si sa virilité était en jeu parce qu'une nation étrangère refuse de s'aplatir devant ses coups fourrés.
Et quand ça n'est pas Donald Trump, c'est Elon Musk qui a les oreilles qui sifflent.
Oui, chronique de Rex Hupke dans USA Today, et là aussi ça déménage. Les Américains doivent exiger qu'Elon Musk soit zappé du gouvernement fédéral avant que sa politique de la terre brûlée et sa vision outrancière de la sécurité sociale ne provoquent une révolte. En résumé, écrit Rex Hupke, il n'y comprend rien. Il parle de 700 milliards d'économies par an, là où l'inspecteur général de la sécurité sociale trouve à peine 10 milliards à sacrifier. Si vous avez besoin de la sécu ou si vous bénéficiez des programmes Medicare ou Medicaid, la dernière chose qu'il vous faut, c'est un milliardaire ignorant qui n'entrave rien à la mise en place d'un budget fédéral.
Et le petit souci pour Elon Musk, c'est que sa croisade anti-fonctionnaire a des conséquences sur son portefeuille.
Et oui, catastrophe. En début de semaine, l'action de Tesla en bourse a chuté de 15% en l'espace d'une seule journée, soit moins 29 milliards de dollars dans les poches d'Elon Musk. Au total, la valorisation boursière de Tesla a fondu de 900 milliards de dollars en trois mois, à tel point que le président est venu à sa rescousse. Donald Trump s'est fait présenter en public plusieurs modèles de Tesla, et même s'il n'a plus le droit de conduire parce qu'il n'a pas eu de voiture depuis des années, le président américain, il va en acheter une pour soutenir son copain Elon au nom du patriotisme économique. Voilà, présentation des Tesla, et Donald Trump qui s'assoit donc dans l'une de ses voitures électriques et commence par s'extasier du tableau de bord électronique et qui finit par dire qu'Elon Musk ne devrait pas être pénalisé parce qu'il fait la chasse à plein de mauvaises choses qui ont été décidées au cours des mandats précédents. Donc, cette Tesla toute neuve va rester à la Maison Blanche. Le personnel, dit-il, hein, Donald Trump le dit, le personnel de la Maison Blanche pourra se servir de cette Tesla, c'est normal. Elon Musk ne m'a jamais rien demandé. Il a construit cette merveilleuse entreprise tout seul. Il ne devrait pas être pénalisé parce que c'est un incroyable patriote.
Et dans un tout autre registre, une info du Miami Herald, l'administration Trump envisagerait un nouveau tour de vis en matière migratoire.
Oui, d'après le Miami Herald, les autorités américaines réfléchiraient à des restrictions à l'entrée sur leur territoire, restrictions en fonction de l'origine des immigrants, similaires à ce qu'on avait appelé le travel ban pendant le premier mandat de Donald Trump. Cuba, l'Afghanistan et le Pakistan seraient placés sur liste rouge, autrement dit interdiction totale d'entrée aux États-Unis. Haïti ne subirait pas le même régime, mais les ressortissants haïtiens qui souhaiteraient entrer aux États-Unis seraient eux aussi soumis à l'avenir à certaines mesures qui restent pour l'instant à déterminer. À ce stade, Anne, la diplomatie américaine dit ne faire aucun commentaire sur des délibérations internes à ses services.
Revue de presse signée Vincent Souriau.
RFI, la radio del mundo.
Une première journée d'audience sous tension hier à Buenos Aires. On a même vu un médecin donner un coup de poing à un journaliste en marge du procès de 7 membres de l'équipe médicale de l'ancienne star du foot, Diego Maradona. Une idole dans son pays, décédée il y a 4 ans. Et la justice étudie une possible responsabilité des médecins, des infirmiers, qui auraient manqué à leur devoir de surveillance et de contrôle. Ils risquent entre 8 et 25 ans de prison. Hier, au premier jour d'audience, les avocats de la famille de Diego Maradona ont évoqué un assassinat, Théo Conscience.
Así murió Maradona.
Voilà comment est mort Maradona. Le procureur Patricio Ferrari montre au tribunal une photo de la star argentine sur son lit de mort, le ventre démesurément gonflé. Pour le magistrat, l'équipe soignante de Diego Maradona a consciemment fait preuve d'une négligence fatale.
Le 25 novembre 2020, vers midi, ils ont délibérément et cruellement décidé de le laisser mourir.
L'avocat des filles de Maradona, Fernando Burlando, va plus loin. Sans donner de nom, il accuse une personne de l'entourage de l'idole argentine d'avoir organisé, je cite, le crime parfait.
Diego Armando Maradona a été assassiné. Quelqu'un qui continue de se tapir dans l'ombre a réuni une équipe de professionnels de santé pour le tuer d'une manière silencieuse, mais néanmoins cruelle.
Silenciosa, pero igualmente cruel.
Les accusés, eux, se retranchent derrière leur spécialité et soulignent que Diego Maradona refusait de prendre ses médicaments. L'avocat de la psychiatre Agustina Kosachov rappelle qu'il souffrait d'insuffisance rénale et cardiaque après une vie d'excès.
Étant donné que la cause de la mort n'a pas pu être déterminée avec certitude, aucun des accusés ne peut se voir attribuer une quelconque responsabilité pénale.
Alors Maradona a-t-il été assassiné ? Était-il seulement soignable ? Plus de 120 témoins vont se relayer à la barre pour tenter de répondre à ces questions. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Notre dossier du jour, une rencontre avec un artiste, une figure de la photographie au Brésil et dans le monde entier. Achim Lippold, vous avez rencontré Sébastien Salgado. Il est de passage en ce moment en France. D'ailleurs, l'exposition de 50 de ses œuvres, présentée en ce moment à Deauville, dans le Nord-Ouest, marque le coup d'envoi de la saison France-Brésil voulue par les présidents Macron et Lula, 200 ans après la création des premiers liens diplomatiques entre les deux pays. Achim, vous avez pu échanger donc avec cet immense artiste.
Oui, effectivement, et je peux vous dire que c'était un moment vraiment inoubliable. Alors, je connaissais le photographe, j'admire d'ailleurs, je le dis franchement, beaucoup ses photos, son travail depuis longtemps, mais j'ignorais qu'il était aussi un incroyable conteur. Alors, chaque photo, effectivement, recèle évidemment une histoire, une rencontre, un événement, mais dont Sébastien Salgado se souvient avec une précision, un sens du détail impressionnant, comme s'il avait pris ses photos la veille.
Il y a donc une exposition en ce moment qui s'appuie sur la collection de la Maison européenne de la photographie.
Exactement, 50 photos en petit format et en noir et blanc, une rétrospective qui donne à voir des clichés célèbres, engagés, la famine en Afrique, la diversité des cultures en Amérique latine, l'immigration, le monde impitoyable du travail, mais aussi des images sublimes de son projet Genesis pour lequel il a parcouru les endroits les plus reculés de la planète à la recherche des territoires encore préservés. Sébastien Salgado découvrait en fait l'exposition en même temps que nous, les journalistes conviés, et pour lui, revoir ces 50 photos réunies, c'était un peu comme voir défiler le film de sa vie. On écoute.
Vous savez, tout dans cette vie passe à une vitesse incroyable. Je ne vis pas le temps passé. J'ai fait énormément de choses, j'ai voyagé, j'ai réalisé des images. Et ce matin, en arrivant ici, j'ai senti un résumé de ma vie. C'est un résumé de ma vie de photographe qui était là. Et ça m'a ému énormément de trouver Mademoiselle Sanglier, la première à son mariage, il y a 46 ans à La Courneuve. Elle était bien là. Qu'est-ce que c'est Mademoiselle Sanglier aujourd'hui? Ça doit être une grand-mère déjà. À cette époque, elle devait avoir 25 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a 70 ou plus, n'est-ce pas? Et j'ai vu toutes ces histoires que j'ai construites, que j'ai voyagées, que j'ai participé, et j'ai vu ma vie. Et donc, ça m'a donné une émotion énorme.
Une émotion énorme qu'il a partagée, heureusement, avec nous, Anne. Et nous avons appris, par exemple, qu'il avait perdu une partie de son audition en couvrant la guerre en Irak, notamment en photographiant les puits de pétrole incendiés par les troupes irakiennes, qu'il avait aussi attrapé la malaria en Indonésie, et qu'après avoir été témoin des atrocités du génocide au Rwanda, eh bien, il avait sérieusement envisagé de ranger son appareil photo à jamais.
Heureusement pour nous, il a changé d'avis.
Heureusement pour nous, il a changé d'avis, car les photos qu'il a prises par la suite, notamment celles de la série Genesis, sont vraiment sublimes, une quête du monde, des origines. Une capture des paysages encore vierges de toute empreinte humaine, une manière pour lui aussi de retrouver l'espoir en l'humanité après avoir tant documenté les horreurs.
Pendant ce projet Genesis, j'ai voyagé pendant 8 ans dans 32 pays ou régions du monde. Mais le plus grand voyage que j'ai fait, c'est à l'intérieur de moi-même, de découvrir que je suis part de tout ça. Je suis partie des minéraux. Je suis parti des végétaux. Tous les minéraux, ils ont une intelligence incroyable. Tous les végétaux. J'ai photographié un arbre. Vous savez, dans la Sierra Nevada, aux États-Unis, qu'elle était brûlée. J'avais des scientifiques avec moi qui m'ont dit, écoute, ce côté de cet arbre, il était brûlé, il y a plus de 2500 ans. C'est-tu ça ? incroyable. Être en face d'un être comme ça, il faut avoir beaucoup de respect, tu vois. Et il faut du temps pour les comprendre, et peut-être pour qu'il te comprenne aussi, tu vois, pour que tu puisses photographier d'une certaine manière, qui puisse sortir la dignité de cet arbre. Et donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Avant, je croyais à une seule espèce, la mienne, ce qui m'a fait perdre complètement l'espoir à mon espèce, en découvrant qu'on a une espèce atroce, violente, horrible, qu'on est en train de détruire nous-mêmes et notre planète, et de découvrir les autres espèces. Et donc, de sentir que moi, j'ai fait partie d'un univers immense d'espèces. Si mon espèce disparaît, il n'y a aucun problème, il y a tous les autres, il y a mon planète.
L'exposition montre aussi des photos prises lors du dernier grand voyage de Sébastien Salgado réalisé en Amazonie.
Oui, exactement. Pendant 6 ans, il a sillonné l'Amazonie brésilienne. Il a vécu au sein des tribus et photographié la beauté saisissante de cette région encore méconnue. Et quand il en parle, Anne, c'est vraiment avec des étincelles, dans les yeux. On l'écoute.
C'est peut-être un des voyages les plus intéressants de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Parce que l'Amazonie, c'est le paradis sur Terre. L'Amazonie, c'est d'une beauté que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas de maladie en Amazonie. On a un peu de malaria au bord de l'Amazonie, mais ce n'est pas une maladie de l'Amazonienne, c'est une maladie africaine qu'on a amenée là-bas. Mais on a pratiquement éradiqué complètement. Vous pouvez boire toutes ces eaux de toutes ces rivières qu'il y en a en Amazonie. Elles sont propres. Elles sont incroyables. Ces populations de l'Amazonie, c'est la préhistoire de l'humanité. C'est nous d'il y a 10 000 ans. Ils vivent d'une manière tellement agréable, tellement douce, en communion avec la nature. Il n'y a pas de mensonge. Je me rappelle une fois, j'ai photographié un groupe. Et des gamins sautaient devant moi. Je demande à la dame qui faisait traduction pour moi de demander à maman, de demander aux enfants d'arrêter. Elle va, elle vient très gênée. Et elle me dit, Sébastien, impossible. Je dis, mais pourquoi nous sauter? Elle a dit, Sébastien, ils ne connaissent pas la répression. Ils ne savent pas dire non. J'ai commencé à voir que des gamins de 6 ans d'âge, ils montaient un arbre de 20 mètres de haut. S'ils tombaient, ils étaient morts. Et pas une seule maman disait ne pas monter. Ils allaient, ils revenaient, ils faisaient. Vous savez, et donc, vivre au milieu d'une population comme ça, c'est un privilège.
Toutes ces photos, Arim, elles ont un point commun. Elles sont toutes prises en noir et blanc. Pourquoi ?
Alors en fait, Sébastien Salgado dit qu'il ne sait pas photographier en couleur. Alors il privilégie effectivement le noir et le blanc avec un tirage d'une qualité exceptionnelle, très soigné, notamment au platine palladium qui donne une richesse de nuances et un effet visuel, une différence nuance de gris vraiment unique. Mais ce n'est pas seulement la forme qui fait de lui un immense photographe, c'est aussi le fond, comme nous explique Pascal Houël, le commissaire de l'exposition.
Il fait partie de, toute une génération de grands photographes qui ont magnifié le noir et blanc. Il a une maîtrise du noir et blanc assez exceptionnelle. Enfin, j'allais dire dans les couleurs de ses photographies, mais c'est que du noir et blanc. Mais il a une maîtrise des gammes de gris, etc. Donc ça, c'est l'expérience, le tirage, le fait qu'il a toujours assumé ses tirages. Toujours, il a son propre labo. Pour lui, le tirage photo est très important. Il photographie pour le tirage, pas pour l'impression, pas pour... Donc ça lui donne une maîtrise des noirs et blancs exceptionnelle. Et puis bon, il a un sens du cadrage. Et puis chez Salgado, ce qui fait sa force, encore une fois, la force de ses sujets. Dans ses photos, il y a toujours un fond, enfin très important, et avec une forme esthétique aussi très importante. C'est la confrontation des deux. Il nous raconte des histoires, il nous traite de sujets très forts, et en même temps, c'est d'une grande beauté plastique.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des endroits dans le monde où Sébastien Salgado rêve d'aller, qu'il rêve de découvrir ?
Alors justement, je lui ai posé cette question. Il faut savoir que Sébastien Salgado a 81 ans. Aujourd'hui, alors écoutons sa réponse à cette question.
Ah, je voulais beaucoup aller en Nouvelle-Zélande. Je n'ai jamais été. Il y a des îles incroyables, des Kerguelen, des îles comme ça, que je voulais aller. Vous savez, pour moi... C'est une grande émotion Je voyage beaucoup en avion. J'adore être à la fenêtre ouverte, en train de regarder les planètes et dire, là, il y a des images incroyables à faire. Là, il y a des vies hors du commun qu'on pourrait les voir, mais que je n'irai jamais voir parce que je ne vais pas tout voir. Ce que j'ai vu, c'est déjà énorme. J'étais dans plus de 130 pays. J'ai fait des histoires incroyables. J'ai dépensé une vie en faisant ça, mais il fallait que j'aie une vie qui dure au moins 1000 ans encore, que je puisse peut-être me réaliser complètement.
Sébastien Salgado qui rêve de vivre 1000 ans pour continuer à photographier notre planète. Merci Achim Lippold. Et si vous voulez, si vous passez à Deauville avant le 1er juin prochain, vous aurez la chance de pouvoir découvrir donc cette exposition 50 œuvres du photographe brésilien. Et puis, dans le cas contraire, il vous reste Internet. Ça n'est évidemment pas la même chose, mais on peut quand même avoir une petite idée de son travail. Merci Achim.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique, des réactions des associations au lendemain de la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire du chlordécone. Réaction pour le moins mitigée.
11 personnes, ainsi en ont décidé les juges administratifs de Paris, 11 personnes indemnisées pour un préjudice moral d'anxiété dû au chlordécone. C'est déjà une victoire, la faute de l'État ayant été reconnue. Mais 11 personnes, évidemment, ce n'est pas beaucoup, c'est même beaucoup trop peu pour Philippe Pierre-Charles. Il est membre d'un des collectifs qui se sont mobilisés en Martinique.
La décision de justice, elle est de confondre le préjudice d'anxiété et le préjudice physique. Ça n'est pas la même chose. Le préjudice d'anxiété, c'est le fait qu'on ne peut pas manger tranquillement sans avoir une inquiétude totale. On ne peut pas être tranquille quand on a des parents qui sont atteints. On ne peut pas être tranquille quand on ne sait pas que faire face aux dégâts qu'on a subis. Bon, le préjudice d'anxiété est beaucoup plus large que ça. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'on poursuive. On va voir avec les avocats sur le plan judiciaire qu'est-ce qui est possible. Est-ce qu'il faut aller en cassation? Bon, c'est un peu technique, il faut voir. Mais on va continuer à dire que le compte n'y est pas.
Direction la Guyane avec un tout autre sujet, la future centrale électrique du Larivot opérationnelle début 2027. C'est l'objectif d'EDF Guyane. Rappelons que ces 7 moteurs fonctionneront principalement avec de l'huile végétale. Erwan Collet est le directeur du projet. Il est au micro de Laurent Marot.
En 2026, on va démarrer la phase d'essai et de mise en service. Donc c'est une phase qui va permettre de vérifier que tout ce qu'on a installé est installé correctement, à tester les équipements en fluide, huile, eau, combustible, électricité. Et une fois que tout ça fonctionnera, on pourra mettre en service le premier moteur. Donc on vise aujourd'hui le deuxième semestre 2026 pour la mise en service du premier moteur. Pour un jalon de mise en service de la première demi-centrale avec 4 moteurs, qui est un jalon important parce qu'il va correspondre à l'arrêt de l'ancienne centrale de Dégrade des Cannes. À partir du moment où on aura mis en service 4 moteurs, on pourra arrêter Dégrade des Cannes. Et la mise en service de la centrale va se poursuivre jusqu'en février 2027, où on livrera l'ensemble de la centrale aux futurs exploitants.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On se quitte avec un peu de musique. Neverender, morceau des Français de Justice en duo avec Tame Impala. Ils seront en concert ce soir à Mexico. Justice qui sera en concert ce soir à Mexico. Ainsi se termine RFI Midi. Je vous donne rendez-vous demain 11h30, temps universel. Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradou pour son émission De Vive Voix. Et une question aujourd'hui, quelle place pour l'enseignement de la langue arabe en France ? Très bonne journée à tous.